Hamdan, une émission présentée par Badia Haddad, réalisée par Mohamed Toualbi, dimanche, lundi et mardi de 11h à midi sur Radio Alger Chaîne 3. Bienvenue dans votre espace, les carnets de Ramadan, qui vous accompagnent le dimanche, lundi et mardi de 11h à midi avec différents sujets. Et pour ce lundi 2 mars, eh bien, on s'intéresse à notre santé. Il sera question précisément de l'obésité. On parle d'environ 34,8% de la population, ce qui serait désormais touché par l'obésité en Algérie. Mais c'est des chiffres à vérifier avec notre invité, professeur Nazim Laraba, chef de service de médecine interne au niveau de l'hôpital Maillot, qui nous fait le plaisir de venir partager avec nous cette petite heure pour donner quelques conseils et nous indiquer surtout ce que c'est l'obésité. Alors pendant Ramadan, je suis sûr qu'on deviendra tous à la fin du mois obèses. Hein. Vous avez vu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, comment la table est garnie. On devrait peut-être se contenter juste d'une petite shorba avec une petite salade. Mais personne n'acceptera, ils vont faire la grève à la maison. Bonjour professeur, merci d'être en direct avec nous.
Bonjour madame Haddad, Haramdanek.
Merci à vous aussi.
Et puis Haramdanekoum à tous les auditeurs de Somobsahoulan, Inch'Allah.
Merci, et ça nous fait plaisir de venir ici en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3. D'ailleurs, les auditeurs pourront intervenir au 021 48 15 15 pour poser leurs questions. Et vous serez là pour leur répondre. 11h08, on écoute une chanson et on démarre notre émission tout de suite. Merci.
عرب الجماعة عم تبدل الريح مين جاي بدلوا بدلوا الميزان والناس سمعوا الصوت صوت بالقصبة
de Ramadan, c'est votre rendez-vous indispensable pour vous accompagner, vous informer et passer votre mois de jeûne en toute sérénité. Dimanche, lundi et mardi de 11h à midi sur les ondes de Radio Alger chaîne 3. Il est 11h11, bonjour professeur Nazim Larrabah, merci d'être avec nous en direct. Alors si on devait parler de l'obésité, alors cette année, est-ce qu'il y a un slogan on parle, selon l'OMS, près de 4 milliards de personnes environ, donc la moitié de la population mondiale, pourrait être en surpoids ou obèse d'ici 2035. Est-ce que c'est...
Écoutez,
les visibilités de chez nous sont pareilles.
L'obésité touche le monde entier. L'Algérie n'est pas exemptée de cette épidémie, puisqu'on parle d'épidémie d'obésité, parce que il y a un changement dans les vies des sociétés. Mmh. Et en Algérie, je confirme que on est à plus de 50% de patients qui sont en surpoids ou obèses. Je voudrais revenir d'ailleurs sur le chiffre que vous avez donné en introduction.
34,8,
c'est un peu élevé. L'obésité en Algérie touche à peu près 20-25% selon les études. Donc c'est à peu près un Algérien sur 4 ou un Algérien sur 5 qui est atteint d'obésité. Donc il y a un BMI, un Body Mass Index au-delà de 30. Et on sait qu'elle touche plus les femmes que les hommes. Elle touche deux fois plus les femmes que les hommes. Les femmes arrivent à 30% d'obésité en Algérie, les hommes moins, 17% à peu près. Et c'est une obésité qui touche surtout l'urbain plutôt que le rural. Je vous prends en exemple Beb El-Oued, là d'où je viens. À Beb El-Oued, il y a une étude où l'obésité atteint 27%. Donc c'est au-delà de la moyenne nationale. Et donc c'est un quartier urbain populaire.
Est-ce qu'on a des explications, professeur Larrabah, par rapport à ça?
Ah, on va dire trivialement, j'aime pas ce terme, mais la malbouffe déjà,
ouais.
Et puis surtout la sédentarité, le manque d'activité physique, le changement, on vit une transition épidémiologique maintenant depuis 20 ans, au profit des maladies non transmissibles, type hypertension, diabète, obésité, et on voit que l'obésité en fait fait le lit de l'hypertension et du diabète. Bon, dans le diabète de type 2, vous avez d'abord de l'adiposité viscérale qui va mener vers une insulinorésistance.
C'est quand on a la petite bedaine.
Exactement.
Voilà. C'est un premier signal qui fait que...
Disons que c'est lié. Ça veut dire que lorsque vous avez de la graisse au niveau de l'abdomen, c'est différent que la graisse en sous-cutanée. En dessous de la peau, au niveau des bras, cette graisse-là va se comporter différemment que celle qui est autour des viscères. Et donc la graisse viscérale, donc abdominale, va avoir des effets qui vont au-delà des lipides, au-delà du cholestérol par exemple. On va se retrouver avec des effets hémodynamiques, neuro-hormonaux, elle va se comporter vraiment comme un organe endocrinien qui va perturber et qui va élever la pression artérielle à atteindre un seuil pour définir une hypertension, qui va élever le taux triglycéride, mais ça tombe sous le sens, mais qui va également faire que l'insuline va avoir du mal à fonctionner. L'insuline, elle a pour but de faire rentrer l'énergie dans la cellule, donc le glucose dans la cellule, et lorsque cette insuline n'est pas défaillante, mais on lui résiste, le pancréas va se fatiguer à fabriquer beaucoup plus d'insuline. Et d'où le prédiabète et après diabète, lorsqu'il ne peut plus fabriquer autant qu'il ne faut.
D'accord, ça c'est les conséquences. Hein,
voilà.
Vous êtes parti direct.
Mais si vous voulez, en termes d'obésité, parce qu'on parle de définition de l'obésité.
Oui, et vous avez parlé d'épidémie. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme? À quel moment on a décidé d'appeler? Donc c'est une maladie chronique quand on est obèse, on est malade chronique.
On est malade maintenant.
On
chronique,
est malade.
Oui.
Ouais.
On parle d'obésité maladie lorsque s'y associe des comorbidités. Mmh. Mais pour définir l'obésité sur le plan, parce que l'hypertension, je vous dis l'hypertension, c'est à peu près 14,9, la pression artérielle qui monte au-delà d'un certain seuil. Quand vous vous dites diabète, c'est le fameux 1,26 de glycémie à jeun ou bien l'hémoglobine glyquée. Ouais. Et ben dans l'obésité, le BMI, on n'a pas trouvé mieux. Mais il n'y a pas que le BMI. Je vous rappelle juste que le BMI, c'est le fait de rapporter le poids à la taille.
Oui.
Et on privilégie BMI plus tour de taille, justement. Mm-hmm. Et donc le tour de taille...
L'idéal pour l'homme et pour la femme, quel serait ?
Écoutez, 88 et 102 ou 94 pour l'homme. Mais vous avez des...
Donc la femme, c'est moins, 80.
Bien sûr. Le seuil féminin est inférieur au seuil masculin, parce que la corpulence est différente.
Oui, mais
il faut vous dire aussi que ces seuils-là sont différents selon les ethnies.
Okay.
Il est beaucoup plus bas en Asie, par exemple.
J'imagine, oui.
Voilà. Et donc, pour parler d'épidémie, si vous voulez, en chiffres, en Algérie, dans les années 90, c'était moins de 10% d'obèses. Et là, on se retrouve à 25% à peu près.
Donc, de 10 à 25%, donc, c'est énorme.
C'est énorme.
Est-ce qu'on n'avait pas vu, parce que bon, maintenant, ces dernières années, on parle de médecine préventive, mais est-ce que les spécialistes de la santé avaient vu venir ce phénomène?
Oui.
Oui,
on le voyait. Ils l'ont vu, ils l'ont décrit, ils l'ont constaté, ils ont alerté. Je parle des professionnels de santé, parce que l'obésité a augmenté, mais même le diabète a augmenté, même l'hypertension a augmenté. Tout ça augmente. Et les maladies non transmissibles sont devenues vraiment un problème de santé publique.
À quel moment, selon vous, professeur Larabas, le tournant s'est fait? À quel moment les populations commençaient ça commençait à changer? Est-ce que c'est juste après les années 90
Non, mais c'est en constante augmentation. Il n'y a pas de tournant, il n'y a pas de cassure ou de rupture à un moment donné où on a dit non. Il y a un changement
des
habitudes de vie et des habitudes alimentaires. Je préfère dire habitudes de vie parce que la sédentarité, on bouge beaucoup moins qu'avant. Smartphone, télé, écran, tous les écrans.
La voiture qui est en.
Voiture, on sort plus de chez soi, on ne marche plus. Je vous disais en préambule avant l'émission que le yoga ne fait pas maigrir, et c'est vrai, le yoga c'est un sport,
mais
pour maigrir c'est surtout la marche à pied.
La marche à pied, des choses toutes simples qu'on peut faire à la maison, même si on prend la voiture, on essaye de descendre un peu plus loin, essayer de faire aller 30 minutes de marche, vous allez nous dire à la fin de l'émission quel est le mode d'emploi. Alors on va un petit peu décortiquer, donc vous avez parlé de cette obésité qui touche de plus en plus, donc vous dites les femmes que les hommes, mais alors on a une idée de la tranche des âges qui arrive après avec des maladies chroniques.
Alors regardez, pour l'obésité, elle touche l'adolescent et l'enfant. C'est à peu près 11%, adolescents et enfants, donc moins de 18 ans, donc c'est beaucoup moins, mais elle commence déjà à cet âge-là. Et on sait qu'une obésité qui est acquise à cet âge-là,
ça va être un adulte obèse.
Ça va être un adulte.
Même si on le détecte...
Ça va être un adulte obèse. Mais avec l'âge, le nombre d'obèses augmente jusqu'à un certain point. Un âge jusqu'à 60 ans, ensuite ça a tendance à baisser, mais c'est pas comme ça qu'il faut peut-être décrire l'épidémiologie des âges. Ici, ce qu'il faut parler, il faut dire que l'adolescent, il faut s'en occuper parce que c'est un point essentiel dans la prévention collective, mais pas personnelle. Donc, sur le plan collectif, il y a des choses qui doivent se faire au niveau de l'école pour permettre à réduire ce 10%, 11%, et puis pour avoir moins en moins d'obèses plus tard.
On reste sur les adolescents. Alors, ils sont au collège, professeur Larabas.
Oui.
Donc,
on disait aussi.
Voilà. voilà. on commence c'est à vue d'œil qu'on voit qu'il est un petit peu en surpoids. Alors, est-ce que c'est les UDS, la médecine scolaire, qui va alerter les parents? Où on va se dire, allez, c'est un signe de bonne santé, on va le laisser, il va faire du sport, il va maigrir.
C'est d'abord aux parents. La médecine scolaire, c'est vrai que ça fait partie de ses prérogatives, mais au collège, il y a beaucoup moins de médecins qui passent au niveau des CEM. C'est plutôt au primaire que vous avez les médecins scolaires qui passent. Il y en a très peu chez les adolescents, et il est vrai qu'il faudrait peut-être renforcer cette présence pour essayer de dépister l'obésité à ce moment-là. Alors l'obésité, elle est facile à dépister. Elle ne demande qu'un mètre ruban et qu'un passe-personne.
Okay.
Mais dans les faits, La solution se passe également chez les parents, dans les maisons, dans les frigos. Et
dans les
l'école,
courses.
Voilà, l'école peut-être rendre l'éducation physique obligatoire. On sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui évitent le PS.
Bien sûr, qui font pas de sport.
Qui font pas de sport pour des raisons diverses et variées.
Ouais, c'est vrai.
Peut-être pas toujours licite, et peut-être qu'il faut peut-être rendre quasi obligatoire cette EPS, ne serait-ce que l'adapter.
Bien sûr.
Par exemple, chez l'asthmatique ou chez dans certaines pathologies, l'adapter, mais offrir toujours une éducation.
C'est les réconcilier voilà. nos jeunes collégiens au sport. C'est vrai qu'ils le boudent un peu l'activité, quelle que soit l'activité physique. Mais quand on le détecte à l'adolescence, quand on détecte cette obésité, je veux dire, qu'est-ce qui doit alerter les parents? À partir de quel chiffre on se dit il y a un danger?
Alors chez les enfants, on parle en percentile, mais même le BMI fonctionne également. Tour de taille beaucoup moins, mais le BMI a au-delà de 25, il faut parler de soucis. Parce que l'obésité est définie par un BMI qui est au-delà de 30, le surpoids entre 25 et 30, mais déjà un enfant qui a 25 de BMI, c'est un signe d'alerte. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'imposer un régime alimentaire, parce que c'est ça le corollaire. Quand on parle d'obésité, c'est il faut limiter, il faut restreindre, il faut. La croissance fera que l'enfant retrouvera un bon BMI. Il faut juste accompagner cette croissance et ne pas proposer de limitation. Il vaut mieux parler d'activité et puis de bannir certaines choses, même sans qu'ils ne le sachent. Je vous parle de boissons
Bien sûr, lactées, chocolatées, gazeuses.
Exactement, ou même...
Et les espèces de chips. Vous avez vu à la sortie comment les enfants, les tout-petits, au primaire,
éviter les collations qui sont là pour plus... pour nuire que pour apporter des choses.
Et ça, je sais pas,
les viennoiseries, les chips, les petites boissons, les petits yaourts là à boire et tout.
C'est très néfaste. Les madeleines bourrées de chocolat.
Exactement.
Et c'est même pas dû.
Ça, peut-être qu'il faut bannir ça, dégoûter. Ouais.
Est-ce qu'avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Éducation, parce que dans d'autres pays, maintenant, on exige dans les écoles d'avoir que des fruits et légumes et de l'eau.
Il y a eu des actions conjointes des deux ministères pour justement sensibiliser les parents, ne plus proposer ça à leurs enfants. Et vous avez eu... on parle d'obésité parce qu'il y a l'Obesity Day qui est le 4 mars.
Oui, c'est mercredi.
Oui, c'est mercredi prochain.
Le ministère de la Santé a un programme, je pense.
Le ministère de la Santé prévoit justement d'organiser une journée demain pour préparer celle du 4, le 3 mars, où Monsieur le Ministre prendra sa part également pour sensibiliser la population vis-à-vis de l'obésité. Il y aura des intervenants qui discuteront, qui rapporteront l'état des lieux et puis surtout les comorbidités, complications liées à l'obésité. Et ça fait partie des solutions qu'on peut offrir. Ces journées de sensibilisation où vous avez un ministre de la Santé qui va parler de ça, permet à la population de mettre un focus. Mais ça ne suffit pas.
Bien sûr. Il y a plusieurs segments, plusieurs secteurs.
Ça veut dire que le ministère de la Santé ne suffit pas. La réponse doit être systémique. Il y a l'éducation nationale, on l'a compris de ce qu'on a dit maintenant.
Le ministère de la Famille, de la Solidarité
aussi,
qui peuvent s'impliquer.
Et même du commerce.
Bien sûr.
Parce qu'on doit pouvoir imposer des seuils de sucre, des taux de sucre.
Ça, c'est un petit peu, professeur Larabat, diminué.
Exactement. Voilà. C'est déjà fait. C'est pour ça que j'en parle. C'est que vous avez, avec le ministère de la Santé qui a organisé avec le commerce des réunions pour voir justement les seuils de sel et de sucre dans les aliments. Et il y a des seuils qu'il faut voir encore baisser. Moi, je suis professionnel de la santé et j'aimerais bien que ça baisse drastiquement. Si on doit comparer à d'autres pays en européens ou même, j'allais dire, maghrébins, ces seuils en Algérie sont élevés et restent plus élevés qu'en Europe, par exemple. Nous, on milite pour que ça soit encore baissé, surtout pour le sucre et le sel.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler les dangers? Alors, vous avez parlé des dangers de l'obésité. Dès qu'elle s'installe, professeur Larabat,
quels
sont les organes?
Déjà, il y a un continuum de risque. Ça veut dire que vous avez, à partir d'un BMI à 25, une élévation de risque. Cette élévation va concerner soit directement des complications, soit indirectement.
Mais c'est pas tout de suite.
Ça veut dire que si je vous dis que l'obésité augmente le risque de diabète, vous comprenez que il y a avec le diabète également d'autres complications. Si je vous dis qu'elle augmente l'hypertension, mais même seule, lorsque vous êtes obèse, vous augmentez le risque de coronaropathie, donc d'avoir des lésions au niveau des coronaires, des artères du cœur, de 49%.
Okay.
Vous augmentez le risque de faire un AVC, d'un peu moins, c'est vrai, un peu de 20%. Mais vous augmentez surtout le risque d'insuffisance cardiaque et de troubles du rythme de presque 100%. Et plus le BMI s'élève, plus ce risque s'élève.
Ouais. Est-ce que c'est tout comment se fait le process? C'est tout de suite, on est obèse 90, maladies arrivent,
la goutte d'eau, la fameuse goutte d'eau qui tombe sur un sol, on pense que le sol c'est du béton et que la goutte d'eau n'y fera rien. Mais au bout de plusieurs années, cette goutte d'eau va fissurer le sol. L'obésité, il va y avoir des effets donc neuro-hormonaux, mécaniques, hémodynamiques et même inflammatoires, parce que l'obésité crée un état inflammatoire chronique, qui fera que les artères vont être plus sensibles à stocker du cholestérol, à se sténoser. Ça, c'est au niveau cardiovasculaire. Mais il n'y a pas que cardiovasculaire. L'obésité augmente le risque de cancer. L'obésité augmente le risque.
Il y a
un lien direct.
Obésité et cancer. Allez-y, professeur.
Justement, il y a monsieur Adabounjar qui doit faire une communication là-dessus demain.
D'accord.
Ministère de la Santé.
On peut juste ouvrir la parenthèse quand vous avez dit obésité, cancer. Est-ce que ça touche des organes précis quand on parle d'un cancer et obésité ou on sait quel genre de cancer ça donne l'obésité?
Plus pancréatique qu'autre. Mais il n'y a pas que le pancréas ou le système digestif. Il y a beaucoup plus de cancers. On sait qu'il y a un risque élevé de cancer du sein, par exemple. Qui accompagne mais il n'y a pas que ça. Il y a des données qui sont parcellaires, c'est vrai, mais on sait que le cancer, en général, le risque est plus que doublé lorsqu'on est obèse, contrairement à ce qu'on pense. Parce que je me dois aussi de parler aux auditeurs pour leur dire que c'est pas parce que on a l'impression que la personne et donc elle est en bonne santé.
C'est ce qu'on disait chaque fois,
Au contraire, Et au contraire, l'obésité pour nous est un facteur, en tout cas socialement, on nous a toujours dit attention, ça veut dire qu'il est bien, c'est un bon vivant, il est en bonne santé.
Voilà, il aime la bonne table.
Mais pas du tout.
Mais on a des obèses qui sont pas malades, professeur Larrabat?
Bien sûr.
Ah voilà, donc c'est pas un risque.
Mais il n'y a pas de 100% de risque.
Okay,
mais l'obésité, petit à petit, va toucher tous les organes, même les articulations. Je vous dis l'arthrose qui est accélérée, surtout au niveau du genou chez l'obèse. Si je vous parle de lombosciatalgie chez l'obèse, ça tout le monde comprend, conçoit que mécaniquement c'est normal, les genoux ne peuvent pas porter plus de poids longtemps. Mais c'est la même chose qui se passe au niveau des autres systèmes.
Donc c'est vraiment l'ennemi du corps, l'obésité.
Exactement.
Ouais. Il est 11h27, c'est les carnets de Ramadan, on parle d'obésité ce matin, en compagnie du professeur Nazim Larrabat, chef de service, service interne de l'hôpital Maillot, de Barine,
la mine de Barine.
Et si vous avez envie de participer, le 021 48 15 15 est à votre disposition. Je salue Mohamed Toualbi qui est à la réalisation, Cheras qui est au streaming vidéo, et notre cher Lefgoum qui est à la régie d'antenne, et Khaled qui est à la console technique. Voilà, Badia Haddad à votre service jusqu'à midi. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. L'obésité à l'honneur dans les carnets d'Algérie. Est-ce qu'on peut lui donner cet honneur? Mais bon, c'est au contraire, c'est essayer de la combattre, n'est-ce pas, professeur Larrabat?
Exactement.
Moi, c'était juste une question que je sais pas. Vous pouvez nous expliquer cette disparité homme-femme? Les femmes sont plus impactées avec une prévalence qui dépasse les hommes. Pour quelles raisons?
Alors, il y a des
les hormones.
Bien sûr, il y a bien sûr les hormones qui sont différentes, mais il y a aussi ce qu'on constate, plus de sédentarité chez les femmes que chez les hommes.
C'est bizarre, hein. Ils vont vous dire, elles sont tout le temps en action.
Mais elles ne s'arrêtent pas. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas que l'Algérie. Hein. Oui. Attention, c'est mondial. Hein. Mm-hmm. Si on prend la région du monde où l'obésité fait des ravages, c'est en Océanie. Mmh. Eh ben, vous pouvez voir que 75% des femmes sont obèses, pas en surcharge, hein, sont obèses.
Okay.
Et donc, même dans les pays qu'on dit développés, il y a également ce même phénomène qu'on voit. Donc, il y a de la génétique, il y a de l'hormonal, sûr. Mmh. Mais en Algérie, il y a, je pense, une grosse
partie, la sédentarité
qui pose.
Mettez votre casque au 021 48 15 15. On a un médecin, docteur Bérilis, qui va intervenir dans l'émission. Bonjour, docteur.
Bonjour madame.
Merci d'être en direct.
J'ai bien écouté le professeur Larrabat,
oui,
que je salue, et vous-même.
Merci madame, merci.
J'aimerais intervenir par rapport à l'obésité de l'enfant.
Oui, allez-y.
Professeur Larrabat, il a précisé surtout l'activité sportive.
Mm-hmm.
Moi, je propose plutôt, parce que pour un enfant obèse, c'est un adulte malade.
Mm-hmm. C'est
reste avec son obésité.
Mm-hmm.
Donc, l'accompagnement, c'est-à-dire l'activité sportive, accompagner, rajouter la nutrition, c'est-à-dire qu'il sera suivi par un nutritionniste, parce que l'enfant obèse, il est mal guidé par rapport à l'alimentation.
Mmh. Oui. Très juste. Bien sûr, ils ont besoin d'un médecin nutritionnel.
Donc, donc l'enfant obèse, je dis bien l'enfant obèse, a besoin d'un nutritionniste.
Mmh.
Oui.
À rajouter par rapport à l'activité sportive et la nutrition.
Mmh.
Regardez,
Larrabat,
je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis même fait pour vous comprendre. Le diététicien, bien sûr, qui fait partie de l'équipe multidisciplinaire qui doit prendre en charge l'obésité, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Mais ici, chez l'enfant, c'est complexe. Et l'adolescence, c'est complexe.
Mmh.
Présenter un diététicien, il faut qu'il soit cool,
diététicien.
Et l'adolescent est, même l'enfant,
réfractaire,
ils
souvent,
sont surtout résistants aux limitations. C'est ce que j'ai voulu dire en disant que l'activité physique, il est plus simple de proposer de la natation, de la marche, même parfois de l'équitation, même parfois des choses beaucoup plus simples. Jouer un match de foot avec ses copains.
Dans le quartier, bien sûr.
Dans le quartier. Et puis c'est le temps qui fera le reste. Le souci de l'enfant est, malheureusement, dans l'obésité, est un souci également familial. C'est-à-dire que c'est les parents qui rendent disponible ce qui rend l'enfant obèse.
Oui.
C'est pour ça que les diététiciens pour l'enfant, oui, mais surtout pour les parents également, pour essayer d'expliquer que l'obésité, c'est vrai qu'il faudra limiter progressivement certains aliments, mais il faut agir au niveau familial.
C'est vrai.
Et parfois, malheureusement, les parents ne sont pas très sensibles à ce type de rapport. On leur explique que si l'enfant est obèse, c'est en partie à cause de vous, parce que vous allez proposer, caricaturellement, il y a des chips, mais il n'y a pas que les chips,
bien
vous
sûr.
Savez. L'accès au frigidaire à l'enfant, je dis pas qu'il faut défendre l'accès, mais un enfant de 8, 9 ans, 10 ans, il ne peut pas se nourrir comme un adulte de 40 ans.
Oui, il faut le guider.
Il ne faut pas qu'il ait l'accès aux mêmes aliments.
Docteur, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Oui. Je suis totalement d'accord avec professeur Larrabat. Mmh. Mais il y a une chose qu'on doit... C'est-à-dire que quand on dit c'est difficile, c'est pas... Non, la nutrition, actuellement, la nutrition, elle est à la portée de tout le monde.
Mmh. Oui.
L'alimentation, c'est quoi l'alimentation? C'est pas priver l'enfant. C'est plutôt faire des plats, faire des plats de quantité... Par rapport à la quantité du gras, le protéines, le sucre rapide. C'est-à-dire qu'on peut toujours donner à un enfant un plat sucré, mais qu'il soit complexe, sucre
simple.
Complexe, pas rapide. C'est-à-dire qu'on joue, on doit jouer sur l'alimentation, c'est-à-dire les légumes. C'est vrai qu'on a une variété de légumes, mais quand on les prépare bien, avec le bon goût et la bonne les bons ingrédients, sans margarine, parce que la margarine, c'est vraiment toxique.
Bien sûr. Est-ce que vous-même, en tant que...
Voilà, donc choisir l'acide gras, choisir les protéines.
Oui, c'est tout un travail, donc c'est en direction des familles.
Légumes. On peut toujours associer fruits et légumes avec des plats sucrés, salés, sucrés.
Sucrés, bien sûr.
On a des tas
d'astuces.
De façons de cuisiner pour attirer l'enfant. Et l'enfant, psychologiquement, déjà, il n'est pas bien.
Eh ben, écoutez, est-ce que
d'accord avec vous.
On est d'accord, ce que vous dites, c'est très...
Mais il y a une chose, je veux juste rebondir. Je suis d'accord avec vous. Franchement, pour l'assiette parfaite, je suis d'accord. Mais je crains, par expérience personnelle, je crains qu'on perdra face à la publicité. Il y a beaucoup plus aguicheur pour l'enfant.
Mais c'est un travail de
du
long
côté
terme,
des produits ultra transformés.
Oui, bien sûr.
Quand je vous dis le yaourt liquide très sucré avec une belle couleur et tout, ça va l'attirer plus que des légumes dans une assiette. Je vous promets, madame, même si vous rajoutez du sucre dans votre assiette ou bien dans votre gâteau ou votre tarte ou votre que vous faites maison et tout, je vous promets que nous combattrons ensemble, mais on nous perdra également ensemble.
Mais en tout cas, il y a un travail à faire. Dites-moi,
exactement.
Merci beaucoup pour votre intervention.
Je vous en prie. Le chemin, il est long, mais
il est long. Voilà, vous avez raison. Voilà.
Je suis arrivée à régler des gens. Et ils sont satisfaits, ils savent ce qu'ils mangent, et c'est très important.
Dites-moi, vous êtes médecin
savoir qu'on doit manger.
Est-ce que vous êtes médecin nutritionniste?
Je suis médecin, j'ai un diplôme un diplôme en nutrition et en nutrithérapie.
Oui.
J'ai
fait
ça avec Jean-Paul Curti. Et là, je travaille pas, je suis à la retraite, mais j'essaie de faire sincèrement, j'ai même pensé à passer dans les écoles.
Eh ben, vous avez pas tort. Laissez votre numéro de téléphone à notre collègue réalisateur, Mohamed Toualbi, on vous contactera.
Vous savez, madame, j'ai fait un thème sur les légumes pour enfants.
Eh ben, c'est très intéressant.
Et j'ai publié ça, personne, pour 2000 dinars, la séance. Et vraiment, j'ai fait des bouquins seuls, des livres seuls.
Eh ben, il y a Texaha.
Mais je n'ai pas reçu par rapport aux parents. C'est ce qui, je donne raison à professeur Laraba. Il
d'accord.
faut éduquer les parents
d'accord.
avant les enfants.
D'accord.
Ouais.
Dites-moi, je peux
merci
laisser
beaucoup,
la
madame,
place aux
votre
autres.
Témoignage.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Je vous en prie, madame.
Il est 11h40. On prend un deuxième appel et puis après, on donnera la parole à notre invité, professeur Laraba. Il y a Mariem au 021 48 15 15. Bonjour, Mariem.
Oui, bonjour.
Comment vous allez, Mariem? Quelle est votre question?
Alors, d'abord, juste la plus facile, en fin d'émission, rappeler comment on prend les mesures, pour savoir si on est obèse ou pas. Et deuxièmement, ce que je me demande, c'est que puisque tous les aliments à problème ont été identifiés en Algérie, comment se fait-il qu'ils soient encore en vente? Je n'arrive pas à comprendre ça.
D'accord, et ben on va voir la réponse de professeur Laraba. Merci Mariem pour votre appel.
Je vous en prie, au revoir.
Et votre fidélité, 11h41. Professeur Laraba.
Alors, pour l'obésité, donc, pour prendre les mesures. Le BMI, je vous disais que c'est le rapport du poids kilo sur la taille en mètres au carré et ça vous donne un chiffre. En dessous de 25, c'est la norme. En dessous de 18, on parle d'amaigrissement. Entre 25 et 30, c'est la surcharge pondérale. Au-delà de 30, on parle d'obésité qui est classée entre 30 et 35, classe 1, 35, 40, classe 2 et classe 4. Ce qu'on appelait avant l'obésité morbide. Au-delà de 40 de BMI. Il y a mieux. Même on doit coupler au fameux tour de taille. Le tour de taille, c'est pas, ça passe pas par le nombril. C'est, on prend les os iliaques, donc l'os de la hanche, si vous voulez, et plus la dernière côte. On se met au milieu, entre les deux, horizontalement, et on prend le tour de taille. Et celui-ci, pris en centimètres, va définir également l'adiposité viscérale et donc l'obésité.
Professeur Laraba, à partir de quel chiffre? 90, 95? quand alors, on est sur une balance, pour, c'est quoi être obèse?
Les chiffres, il n'y a pas de chiffres algériens, c'est ça le... Mais on garde en tête, nous, le fameux 88 chez la femme, centimètres.
À partir de 88 on est obèse.
Oui, chez la femme, et 102 centimètres chez l'homme.
D'accord. Alors, voilà. Un autre appel, si vous permettez, le sujet nous interpelle nos auditeurs. On a Huria d'Alger. Bonjour Huria. Huria, vous êtes en direct.
Bonjour madame.
Oui, vous, oui, bonjour. Allez-y, Huria, rapidement, votre question.
Alors voilà, j'ai mon petit-fils, il est âgé de 3 ans.
Oui.
Il ne mange aucun légume.
Mon Dieu, c'est affreux.
Voilà. Sa nourriture, c'est du fromage, un yaourt, très souvent je fais à la maison, et une demi-banane.
Attendez, il ne mange même pas les pommes de terre frites, des choux-fleurs?
Du tout. Quand il était tout petit, je lui faisais sa petite soupe. Oui. Il mangeait très bien.
Oui.
Et au moment de la dentition, il a arrêté de manger.
Professeur Larama,
il a arrêté de manger. Et depuis, c'est le lait, c'est biberon.
Il a 3 ans, hein?
Il a 3 ans, il vient juste de faire 3 ans.
Professeur Arabe.
Il a fait 3 ans.
Huria, vous
et
êtes
là,
la mamie.
Je m'inquiète, on lui a passé des...
Vous êtes la mamie. Huria, vous êtes la mamie, pas la maman.
Allô?
Allô, oui.
Huria, vous êtes la... Vous êtes la mamie. Sa grand-mère.
Je suis la grand-mère. C'est
d'accord,
moi qui le garde. Sa maman travaille. C'est moi qui le garde.
D'accord. Donc pendant les heures où vous le gardez, vous avez du mal à lui faire changer ses habitudes ou ses mauvaises habitudes.
Même sa maman. Elle lui donne à manger.
Alors regardez, il me semble que d'abord il y a des motifs d'espoir. Il n'a que 3 ans. C'est plus facile pour lui changer d'eux. Et la banane est un bon également motif d'espoir. Et il me semble que ça va devoir passer par des compotes, d'abord sucrées et puis petit à petit les compotes salées. Les sucrés,
même les compotes, il les prend pas.
Oui, mais si vous lui donnez le choix, c'est normal qu'il ne prenne pas.
Mais voilà, dites-moi, Huria, c'est pas lui qui doit décider à 3 ans.
Il mange pas, et moi, ça fait de la peine.
Alors regardez, parce que là, on entend le cri de détresse de la mamie, mais c'est la maman et le papa qu'il faut toucher. Il me semble que vous rapprochez du votre pédiatre permettra d'améliorer les choses et surtout de déstresser les parents. Parce que c'est pas parce qu'il ne mange pas que l'enfant va se sentir mal. Et peut-être qu'il faut passer par des périodes où il va même réduire sa ration, mais après acquérir de nouvelles habitudes, plutôt que de le laisser faire ce qu'il veut. À 3 ans, on ne sait pas ce qui est bon pour soi. Et je comprends votre anxiété. Pardon, je comprends votre anxiété et le fait de dire il ne mange rien. Mais s'il n'y a pas d'impact clinique, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que ça soit encadré médicalement.
Oui, il a une très bonne santé.
Hein. Oui, très bonne santé. J'imagine qu'il est bien joufflu, qu'il est machin, que c'est un beau bébé. Mais à 3 ans, c'est plus un bébé justement. Et que aujourd'hui, il faut, même si vous devez être accompagné par un professionnel de santé, pédiatre ici typiquement, et il faut pouvoir lui imposer, même s'il mangera moins, il y aura une période où il mangera moins, mais petit à petit, il va acquérir. Il faut faire en sorte de faire la guerre aux exhausteurs de goût. Vous, c'est pas parce que c'est plus sucré, bien sûr, plus sucré, même moi, plus sucré, je préfère.
J'adorais.
Mais lui, à 3 ans, il ne faut pas lui donner le choix. Et le fromage n'est pas bon du tout, surtout lorsqu'il est fondu, lorsqu'il est très salé. Et donc, pour moi, il faut lui forcer, même si j'aime pas trop ce terme lorsqu'on parle d'enfant, mais médicalement encadré, il faut lui faire changer ses habitudes, mais ça tombe très bien, je vous dis, 3 ans, c'est très facile. Et il ne faut pas accéder à ses demandes. Ici, c'est plus les parents que la mamie.
Voilà, donc ne vous inquiétez pas.
Vous n'êtes pas
responsable, mais il faut parler avec votre fille ou votre garçon.
Même si vous le recevez peut-être tous les jours, mais je persiste, c'est pas la mamie. La mamie n'est pas là pour imposer. La mamie est là pour aimer.
Voilà, aimer, tout à fait. Donner même des bisous, des câlins.
Voilà.
Mais
ça me fait de la peine. Bon, ses frères, sa sœur et son frère mangent très bien.
Oui,
et mais... lui, ça fait de la peine de le voir.
C'est le mazosé, c'est le plus petit.
Voilà, le plus jeune.
Le plus jeune, ouais. à qui on va permettre beaucoup de choses. Peut-être que ça va passer par plus de rigueur.
Voilà. Houria, bon courage pour vous. C'est quoi son prénom, votre petit-fils?
Merci beaucoup, madame.
Vous en prie, madame.
Merci. Voilà. Bon, elle était toute peinée. Je la ressens, hein, comme grand-mère. 11h47. On n'avait pas rebondi sur la question de Mariam la deuxième. Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on sait, c'est un peu l'explication que vous avez donnée dans cette transition nutritionnelle, c'est la consommation élevée des produits ultra transformés, des boissons sucrées.
Oui.
Alors Mariam a dit, est-ce qu'on les retire du marché? Qu'est-ce qu'il y a lieu
non,
de
Non, retirer du marché, on peut pas retirer du marché. Parce que il y a des franges de la société qui peuvent se restreindre. Je vous le dis, si on prend les yaourts, allez. On peut pas interdire le yaourt. Par contre, on peut imposer des seuils de sucre dans le yaourt, dans les boissons. Donc c'est déjà fait. On peut aller plus loin, mais on ne peut pas. Il faut que ça se fasse progressivement. La société ne peut pas être prête à accepter drastiquement. Allez, plus de yaourt, plus de boissons gazeuses. Plus... Donc
juste
on est là pour
moins
on
sucré,
doit réguler,
moins salé.
peut-être taxer les produits sucrés, peut-être passer par la taxation, donc l'élévation des prix et donc réduire l'accès, peut-être, mais de là à prohiber. Je ne suis pas pour.
Alors, dites-moi, il y a une éducation qui doit se faire, donc individuelle. Alors, et collective. Alors,
exactement. Il y a des sociétés savantes qui s'occupent d'obésité.
Il y a la
qui
s'occupe de l'obésité et des maladies
métaboliques.
Métaboliques, ça.
Mais l'obésité est l'affaire de beaucoup de sociétés. Vous avez vu que les comorbidités sont importantes, et donc vous avez des sociétés de cardio, de médecine interne, qui s'occupent également d'obésité. Le but, c'est de sensibiliser le plus grand nombre. Quand on parle de médias, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs ce matin.
Merci.
Et puis également former les professionnels de santé pour appréhender au mieux. Et donc vous avez le ministère de la Santé qui a fait beaucoup de choses, notamment un guide à l'adresse des professionnels de santé pour la prise en charge de l'obésité, où on parle formation, où on décrit le parcours de soins, justement les intervenants. Je rebondis sur ce que disait le docteur qui parlait de diététicien, justement le diététicien, le médecin spécialiste, le médecin généraliste ont toute leur place, les infirmiers. Tout le monde doit s'occuper d'obésité. Ce n'est pas l'affaire uniquement du médecin, mais de tous les professionnels de santé.
C'est-à-dire le médecin de famille ou le médecin généraliste du quartier. Il doit interpeller si l'enfant est en obésité.
Il n'y a pas que les enfants.
Ou les polycliniques,
oui,
au niveau
il y a bien sûr les enfants. C'est un axe de prévention. On parle d'éducation à la santé, qui se fait en éducation nationale, en tout cas dans les écoles. On apprend à l'enfant à préserver sa santé, non pas parler maladie, mais on parle de préservation, et ça va rester. Même si on le fait alors qu'il a 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, même quand il aura 40 ans, il se rappellera de ça au moment d'éduquer ses enfants, justement. Et donc,
Mais est-ce qu'il y a une action nationale que le ministère de la Santé est en train de préparer
qui se préparent, c'est pas à moi de les annoncer. Il y a monsieur le ministre qui doit parler demain, justement, pour célébrer et sensibiliser pour l'obésité, mais il y a des choses qui se sont déjà faites. Vous avez le guide de la nutrition, vous avez des guides qui ont été faits, notamment celui de l'obésité il y a 2 ans maintenant. Vous avez des sociétés savantes, vous avez même des sociétés civiles. Vous avez parlé de slogan.
Oui.
Il n'y a pas de slogan aujourd'hui, mais peut-être moins sucré et moins free. Allez, free.
Alors, j'allais, c'était peut-être ma dernière question à 11h51. Quelles sont les recommandations nutritionnelles ou juste au niveau de la petite famille qui sont à l'écoute, hein, surtout en cette période de Ramadan?
Peut-être que Ramadan, c'est pas la bonne période pour parler de limitation, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne période ou de mauvaise période. Il faut, lorsqu'on parle d'obésité ou lorsqu'on parle de préservation de la santé, il faut convenir d'une alimentation qui est dite équilibrée. Vous avez plusieurs façons de voir. On peut faire appel à un diététicien lorsque je n'arrive pas tout seul à équilibrer. Oui. Mais raisonnablement, vous avez l'assiette. Vous avez la règle de l'assiette. C'est quelque chose qui est très simple, qu'on peut garder, c'est très vite. C'est un quart protéines, un quart féculent, et un demi sucre lent et éviter les sucres rapides. Quand on vous dit féculent, je parle de féculent complet,
voilà,
riz,
alors,
il faut que ça soit riz,
lentilles,
de la protéine, lentilles, même pain complet c'est considéré comme féculent complet. Protéines blanches plutôt que rouges. Dans les blanches, poissons plus que poulet. Dans le poulet, plus le blanc que la cuisse. Ou pire, l'aile. Dans les viandes rouges, plus les plus le bœuf que
le
mouton, que
le mouton, même si c'est savoureux.
Même si c'est savoureux. Et puis il faut éviter tout ce qui est frit. C'est la friture qui pose problème. Il vaut mieux une fawro qui est merolo ou la nrleo.
On ne va pas une fawro le bourek pour ça à l'araba.
Alors bourek. Alors je suis quelqu'un.
Voilà, c'est
je
le
suis
débat
qui milite
à la maison.
Là, je
veux le voir frit.
Je suis quelqu'un qui milite pour bannir le bourek tous les jours pendant Ramadan. Pour moi, bourek ou brika.
C'est pas associé. C'est associé, voilà.
Ben, il y a des choses à faire. Ben, justement, il faut peut-être penser à dire à notre société que Ramadan, ce n'est pas le bourek. Je suis désolé.
D'accord.
C'est un mois de piété qui est malheureusement
et de solidarité
qui est malheureusement dévoyé et qui devient une culture de la consommation ou la belle table ou la belle photo ou la belle table, c'est pas celle où il y a tous les jours le bourek, où il y a des boissons gazeuses, où il y a tous les jours à la fin le qalbelouz ou le zlabiya et tout.
Et vous avez, professeur Laraba, vous avez remarqué le nombre de pâtisseries qui ouvrent nouvelles.
Ah ben oui, ben
c'est à profusion. Ben oui.
Écoutez,
on dirait qu'il y a qu'une demande. On veut le pavé du.
Ben c'est comme les. Ben c'est ça le. C'est ça l'épidémie. L'épidémie mondiale, c'est la manière de consommer et on consomme malheureusement moins bien qu'avant. Aujourd'hui, on sait plus ce que c'est qu'une date, un verre de lait, plus le shorba.
Et les générations n'aiment pas manger le khorchef, les cartes, n'aiment pas manger les céleri, les artichauts.
Ça veut dire que vous avez légumes pour l'assiette, pardon, une demi légumes, un quart protéines, un quart féculent. Il n'y a pas de place au sucre rapide dans cette assiette. Et si on prend Ramadan, donc il n'y a qu'un seul repas par jour, ce repas-là, il faut qu'il soit de plus en plus healthy. On ne sont pas bêtes ceux qui ont dit une kassarosiem avec une date, une kassarosiem avec de la shorba. Parce qu'il faut d'abord hydrater. C'est la première chose à laquelle on doit penser. Et éviter d'hydrater uniquement avec des eaux qui sont sucrées.
Oui. Dites-moi une question juste sur les produits laitiers. Vous avez dit fromage, yaourt. Vous avez dit pas bon, je sais pas, j'ai pas très bien compris votre trop de fromage pour le petit. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup
on
de
personnes. On parlait du petit de 3 ans.
Pas que du petit, mais vous avez parlé.
Là,
quel est votre avis sur les produits laitiers ou les fromages?
En termes de cholestérol, d'apport de cholestérol, il faut faire attention. On ne peut pas avoir dans un même repas un fromage à croûte ou un camembert avec un yaourt. C'est antinomique. C'est soit l'un, soit l'autre. Et peut-être pas à tous les repas. On peut pas prendre un yaourt le matin en se réveillant, du camembert à midi, et le soir un autre yaourt. Ce n'est pas possible. Même si le yaourt... peut-être que je fais la guerre au yaourt pendant cette émission. Les gens ils vont penser que c'est... Non, c'est pas tant le yaourt. Parce que c'est le symbole de celui qui est devenu... parce que le fast-food, c'est pas que le fast-food avec le frites omelette. C'est également les choses qui sont emportées dans des cartables et qui sont très sucrées. Et le yaourt à boire, pour moi... Vous parlez de tournant tout à l'heure. Ben, le yaourt à boire, lorsqu'il s'est mis dans les cartables.
Ça, c'est là où le tournant.
C'est là où je pense.
Voilà, c'est juste une question d'activité physique. Notre rapport au sport, à la marche, vous avez pas donné, ça fait partie. Quand on parle d'obésité, même si on est en surpoids, il est dans l'obligation de faire ces 30 minutes, n'est-ce pas, professeur Laraba?
C'est 30 minutes de marche.
Ça, c'est
on parle
le
de 30
minimum,
minutes de marche, mais pas n'importe quelle marche. C'est
rapide.
Pas la marche pour aller acheter le journal ou pour, c'est de la marche rapide, la marche qui fait suer. C'est 30 minutes. Oui, par jour, ça permet d'éloigner l'infarctus du myocarde, d'éloigner l'AVC, d'éloigner l'artériopathie oblitérante et surtout d'éloigner tout souci cardiovasculaire et ou bien lié à l'obésité.
Est-ce qu'on peut éviter d'être obèse, professeur Laraba?
Oui, on le peut. Il y a des obésités génétiques, attention, il y a des obésités secondaires à des traitements. Ça, on peut pas l'éviter. On peut le réduire, mais on peut pas bannir, on peut pas enlever. Mais la plupart des personnes obèses qu'on voit, nous, sont des obésités qui sont évitables. et traitable.
C'est l'assiette.
Traitable. Vous avez de nouveaux produits, de nouveaux qui sont à la mode, de nouveaux médicaments qui sont à la mode pour l'obésité lorsque les règles d'hygiène de vie ne suffisent pas.
Oui. Mais avec avis médical, hein, professeur Larabat.
Bien sûr. Okay. Bien sûr. Okay. Toujours.
Avec des résultats
spectaculaires de par le monde. En Algérie, ils ne sont pas encore disponibles.
Okay.
Même si on en voit, hein, malheureusement, qui se font en dehors de tout avis médical, qui sont importés par voie informelle. Il faut que ça soit encadré médicalement.
D'accord, mais donc faites attention juste à ce que vous mangez et faites-vous 30 minutes de marche rapide. Voilà. Merci à vous, professeur Larabat, d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation, merci à vous.
Voilà, et c'est le 4 mars, hein, donc pensez à ceux qui vraiment juste n'arrivent pas à manger. Voilà, c'est du côté de la Palestine où la famine sévit. Voilà, merci et on se retrouve demain. Yemen Aish.